Gabory. Bonjour Baptiste Gabory.
Bonjour Gaël, bonjour à tous.
Le mot fulgurant, c'est la une du Parisien ce matin.
Un vent de mort, titre aussi Corse Matin. Après l'orage brutal et dévastateur qui s'est abattu sur la Corse hier, peu après 8h, un monstre résume le Parisien. Camping dévasté, arbres arrachés, 5 morts et 20 blessés, dont 4 grièvement. C'était effrayant, raconte Thaïs qui vit dans un village à une vingtaine de kilomètres d'Ajaccio. J'ai essayé de fermer les fenêtres mais je n'y arrivais pas. On aurait dit une force surnaturelle. C'était la panique, confie de son côté Jamie, une campeuse de 43 ans. La tente était sur le point de s'envoler, donc on s'est réfugié dans la voiture et dès qu'il y a eu une accalmie, on est allé dans la salle du restaurant. Dans Libération, témoignage d'Edouard, j'ai entendu comme une vague qui déferle sur une plage, sauf que c'était du vent. Il était dans un mobil-home avec sa femme. Il a passé, dit-il, les 40 minutes les plus longues de sa vie. Une question dans Le Parisien ce matin, aurait-on pu éviter un tel drame ? La polémique enfle autour du système d'alerte et de vigilance météo. La Corse n'était placée hier matin qu'en vigilance jaune quand l'orage est arrivé. Météo France reconnaît avoir été surpris par la force des rafales. Des scénarios prévoyaient bien un orage proche de celui observé, mais les scénarios les plus probables misaient plutôt sur un orage se limitant à la zone maritime. C'est cette deuxième hypothèse qui a été retenue. Les orages restent des phénomènes complexes, très difficiles à prévoir, explique dans Le Parisien un prévisionniste. Les équipes ont refait 3 fois leurs analyses hier pour comprendre ce qui aurait pu être mieux anticipé, glisse dans Le Quotidien un employé.
On parle de tout autre chose. Les démissions sont au plus haut.
Du jamais vu. Depuis 2008, au premier trimestre, 523 000 personnes ont démissionné, 469 000 en CDI. C'est à lire dans Le Parisien. Des chiffres en hausse, mais rien de très surprenant, explique de son côté Les Échos ce matin. La grande démission, un phénomène à relativiser. Les salariés cherchent en fait à profiter du dynamisme du marché de l'emploi. Ces démissions ne se traduisent pas par un retrait massif du marché du travail. 8 démissionnaires sur 10 ont retrouvé un emploi dans les 6 mois qui ont suivi. Ce n'est pas une grande démission, plutôt une grande rotation, écrit dans son édito Lucie Robequin. S'il démissionne, c'est pour travailler ailleurs, pas pour contempler les cieux. On a suffisamment reproché aux Français leur manque de mobilité, poursuit-elle, pour ne pas saluer leur soudaine bougeotte. Les démissions accélèrent, mais le marché immobilier lui ralentit, c'est à lire dans Le Monde, dans les pages saumon du Figaro également. En cause, la hausse des taux d'intérêt, le plafond du taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximal au-delà duquel une banque ne peut pas prêter. Certains ménages n'ont tout simplement plus le budget pour acheter, explique le Figaro. Les banques sont plus frileuses. Près d'un dossier de prêt sur 2 passerait aujourd'hui à la trappe, selon un sondage récent. En conséquence, les transactions ralentissent et les prix commencent à stagner dans les grandes villes.
Dans 3 mois, c'est déjà la Coupe du Monde de foot au Qatar.
Et c'est la une de l'opinion, l'aboutissement d'une intense stratégie de soft power menée par l'émirat. Comment le pays s'est dédiabolisé par le foot et par le sport plus généralement. Le Qatar a investi sans compter, intégré les fédérations internationales, racheté le Paris Saint-Germain, le sport comme instrument de soft power. Pourquoi ? Parce que les figures de la famille régnante sont des passionnés de sport, une culture forgée dans les universités britanniques, explique un spécialiste. Sauf que, depuis 10 ans, l'organisation de cette Coupe du Monde s'accompagne de polémiques. En février 2021, le Guardian révèle même que 6500 travailleurs migrants ont trouvé la mort sur les chantiers de la compétition. Des stades climatisés, construits pour certains en zone désertique. Les homosexuels seront-ils en danger durant cette Coupe du Monde ? S'interroge également l'opinion. Josh Cavallo est australien, le seul footballeur professionnel en activité ouvertement homosexuel. Il confie avoir très peur de se rendre dans l'émirat avec sa sélection. Qu'en sera-t-il des spectateurs dans un pays où l'homosexualité est interdite ? Si 2 hommes s'embrassent en public, il y a des chances qu'on leur demande de prendre le premier avion, selon un ancien ambassadeur français au Qatar, mais dans les chambres, ils fermeront les yeux. Le Qatar, en tout cas, n'est pas rassasié. Son prochain objectif, le Graal, les JO 2036, l'organisation de ces JO 2036. Mais avant cela, il y aura évidemment les JO 2024 à Paris, et c'est la grande priorité de la fin du deuxième mandat d'Anne Hidalgo, écrit Le Parisien, qui revient ce matin sur l'été et la rentrée des grands perdants en politique de 2022, ceux qui ont vu leur ambition s'écraser sur le mur d'une impétueuse réalité électorale. Yannick Jadot prépare un coup pour la rentrée, assure un de ses soutiens. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, est dans l'action, déterminée à laver l'affront. Éric Zemmour, lui, se réfugie dans l'écriture de son prochain livre. Il y a passé tous ses matins cet été. L'ouvrage pourrait sortir avant la fin d'année.
Le Monde avec le groupe Mozart en Ukraine.
Le groupe Mozart, c'est une société militaire privée américaine. Une trentaine de volontaires, pour la plupart anglo-saxons, tous vétérans des forces d'élite. Mozart, une référence ironique à Wagner, ce groupe de mercenaires russes à la sinistre réputation. Les Mozart, la reporter du Monde, Florence Obna, les a rencontrés dans la région du Donetsk, pas loin de la ligne de front. Ce jour-là, écrit-elle, ils sont six, répartis dans deux 4x4, une ville sous le feu. Les Mozart croisent un groupe de soldats ukrainiens. Ça vous dirait, une formation militaire lance un des Mozart. Le stage est gratuit. 10 jours sur le maniement des armes et la tactique sur un terrain privé. C'est là la mission principale de Mozart, la formation. 2500 soldats ukrainiens y seraient déjà passés. De la formation et des missions humanitaires, pas plus, pas de combat, surtout pas de combat. Aucun des Mozart ne porte d'armes. Si un des hommes participe à un affrontement, il doit quitter le groupe, assure son fondateur, le colonel américain à la retraite, Andy Milburn. Mozart contre Wagner, le clin d'œil était tentant, mais Milburn regrette presque son choix. Ici, on fait le travail que Washington ne peut pas faire, mais on n'a rien à voir avec le Pentagone, assure-t-il.
Alors là, c'est votre côté romantique, hein, Baptiste Gabory. Ah, oui. On le sent. On va terminer avec une scène mythique.
La scène culte d'un film qui ne l'est pas moins, Titanic, Jack et Rose, eh oui, réunis sur l'avant du paquebot, c'est le coucher du soleil, Jack la retient par la taille, elle s'exclame « Je vole », les deux s'échangent ensuite leur premier baiser, Jack et Rose, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, c'est le Figaro Magazine qui poursuit sa série d'été consacrée au plan mythique du cinéma, cette scène devenue figure de proue du film, marque aussi par sa symbolique, hein. C'est la dernière fois que le Titanic voit le jour. Une scène dont le Figaro donc dévoile les coulisses. James Cameron, le réalisateur, avait fait construire une maquette presque à taille réelle du Titanic installée en bord de mer afin de capter la lumière naturelle et donc un vrai coucher de soleil. Sur le plan de travail, 8 jours étaient consacrés à ce plan, à cette scène, mais la météo n'est pas au rendez-vous. Toute l'équipe patiente donc. Quand le ciel se dévoile enfin, Kate Winslet est maquillée à la hâte. La scène est mise en boîte. Le plan est même un peu flou, raconte le Figaro, mais Cameron a gardé la prise, considérant que le coucher de soleil était parfait. C'est aussi sur ce plan qu'on entend pour la première fois les chœurs de My Heart Will Go On, interprétés par Céline Dion. Ça vous plaît, Gaël, hein?
Bah, vous voulez nous faire pleurer ce matin, Baptiste Gabory. C'est pour mon
mais
départ,
non,
c'est
non.
Ça,
en
mais
c'est
fait.
Ça,
et
c'est
voilà.
Un hommage.
Quel bel hommage.
My Heart Will Go On, Titanic, on connaît la suite. 21 millions de spectateurs en France, c'est colossal. 2 milliards de dollars de recettes dans le monde et le plus grand nombre de stars d'Oscars de l'histoire. 11 statuettes.
Et pour votre plus grand plaisir, Baptiste Gabory, sachez que le film va ressortir au cinéma. Ça sera le 8 février prochain dans une version inédite. Peut-être que je vous l'apprends.
Mais vous me l'apprenez.
Et c'est parfait pour la Saint-Valentin.
Mais on y sera. Bah,
voilà. Voilà, on y sera. Je vous remercie beaucoup, Baptiste Gabory, d'avoir passé une partie de votre été avec moi. Vous serez là la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Pour le journal.
C'est ça.
Voilà, exactement.
Merci
beaucoup, Baptiste Gabory.